Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. 100 ans après le début du génocide arménien qui fit dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1917 plus d'un million de morts, la Turquie refuse toujours de parler de génocide. Le gouvernement d'Ankara évoque des massacres mutuels et dit partager les souffrances des enfants et petits-enfants des Arméniens. Mais le président Recep Tayyip Erdogan s'insurge quand le pape François emploie pour la première fois le mot génocide et quand le Parlement européen encourage la Turquie à reconnaître le génocide arménien. 100 ans après le début des massacres, le génocide arménien reste un problème turc. Je vous présente nos invités. Gaët Seminasyan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde. Vos derniers livres, vous en avez publié deux récemment, Le rêve brisé des Arméniens chez Flammarion et Arménien, le temps de la délivrance aux éditions du CNRS. Vincent Duclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et co-auteur avec Camille de Bozarslan et Raymond Kevorkian de Comprendre le génocide des Arméniens 1915, le premier génocide, et c'est paru aux éditions Taillant. Et en ligne d'Istanbul, nous rejoignons Ahmet İnsel. Bonjour, merhaba.
Merhaba, bonjour.
Vous êtes professeur, politologue et tout jeune journaliste. Hein, vous venez de prendre des fonctions dans un journal, vous êtes éditorialiste. Comment s'appelle le journal ?
Cumhuriyet.
C'est un des grands quotidiens d'Istanbul.
Oui, oui, tout à fait, un de plus anciens.
Votre dernier livre, La nouvelle Turquie d'Erdogan, aux éditions La Découverte du rêve démocratique à la dérive autoritaire, va sortir dans quelques jours aux éditions donc de La Découverte. Et vous êtes co-auteur avec Michel Marian de Dialogue sur le tabou arménien. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années chez Liana Levy, mais qui est réédité. En tout cas, merci d'être avec nous en ligne d'Istanbul. Alors Vincent Duclerc, on va faire un peu d'histoire pour nos auditeurs. Il y a 100 ans, la Turquie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Il y avait l'Empire ottoman qui allait vers sa fin, il n'était plus que l'ombre de lui-même.
Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que l'homme malade de l'Europe, c'est l'expression de l'empereur russe, a connu effectivement des sérieuses vicissitudes. Mais en même temps, au début du XXe siècle, il y avait un mouvement visant à la régénération de l'empire en le démocratisant, en le modernisant. C'est la révolution jeune turque.
On va y venir. Mais vraiment, il y a eu un grand empire ottoman en 1915. C'est plus grand-chose. C'est plus l'empire triomphant.
Alors c'est vrai que l'Empire ottoman a perdu l'essentiel de ses promesses européennes, ce qui a été un traumatisme pour l'Empire ottoman, car en fait le développement de l'Empire ottoman s'est fait largement sur ses provinces, dans les Balkans particulièrement, et puis au niveau effectivement du Moyen-Orient,
jusqu'à Sarajevo par exemple.
C'est vrai que l'Égypte par exemple a été conquise par la Grande-Bretagne, la France a saisi la Tunisie, l'Algérie, donc c'est certain que l'Empire ottoman tente à se replier vers ce qu'on pourrait qualifier d'espace turc, et finalement il y a une montée en puissance aussi de la composante turque au sein de l'Empire ottoman, qui n'est pas uniquement turque, hein, et visant donc à reconstituer l'Empire ottoman sur une base turque, sur une turcité, c'est le programme notamment des jeunes turcs.
Et on va y venir. Alors dans cet Empire ottoman, Gaët Seminasyan, que représentent les Arméniens? Où vivent-ils? Que font-ils?
Alors, les Arméniens font partie de ce qu'on appelle les minorités chrétiennes. Ces minorités chrétiennes sont organisées en miyettes, donc en communautés autonome, extraterritorial, c'est-à-dire sans base territoriale, communauté religieuse. Les Arméniens sont environ 2 millions en empire ottoman.
Environ 10% de la population de l'Empire ottoman à l'époque.
Donc, et ils sont un peu disséminés partout dans tout l'Empire, mais surtout, ils sont sur ce qu'on appelle les provinces orientales, c'est de l'Empire, c'est-à-dire Erzurum, Van, Hakpert, Bitlis, donc l'Arménie dite historique, le plateau arménien. Et ils sont essentiellement aussi à Constantinople ou Istanbul aujourd'hui, où ils représentent quasiment 25 à 30% de la population, ce qui est quand même beaucoup. Et puis vous en avez aussi en Europe, en Turquie européenne, donc dans la partie balkanique. Vous en avez également dans la partie moyen-orientale. Vous avez Jérusalem, vous avez Damas, vous avez d'autres villes de la Mésopotamie. Donc ils sont
une
à peu près partout.
Et puis, disséminés.
Voilà. Et puis également aussi de manière assez forte dans ce qu'on appelle la Cilicie, donc Adana notamment. Donc le coude actuel de la Turquie, actuel de la Turquie qui fait le coude avec la Syrie. Donc là vous avez une forte représentation arménienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Arméniens sont frappés du statut de dhimmi. Donc dhimmi, c'est-à-dire être protégé par le sultan, mais en fait on s'aperçoit que c'est plus des sujets de seconde zone qu'autre chose. Et il y a une grande différence dans la communauté arménienne, c'est celle qui prévaut entre les Arméniens qui sont des provinces orientales reculées et ceux qui sont à Constantinople. En gros, on a l'impression d'être dans un État avec deux systèmes.
Ahmet Tinsel, comment sont perçus les Arméniens à cette époque dans l'Empire ottoman, dans ce qui allait devenir la Turquie ?
Juste avant la Première Guerre mondiale, il y a déjà des tensions entre Arméniens et le pouvoir ottoman et une partie de la population, puisque avant 1915, il y a déjà deux grands, très grands massacres envers les Arméniens. En 1895-96 d'abord, et puis en 1909 à Adana, qui sont concomitants à une contre-coup d'État envers les jeunes Turcs en 1909.
Alors avant l'arrivée des jeunes Turcs, comment sont perçus ? Je veux dire, pourquoi il y a ces massacres ? Ils sont parce qu'ils sont chrétiens et que la majorité de la population est musulmane. Qu'est-ce qui explique le ressentiment des Turcs à l'égard des Arméniens avant, dans les années avant 1905 ?
L'origine du problème dans ce cas-là, est dans 1856, quand le sultan, sous la pression des puissance européenne, après la guerre de Crimée, le sultan déclare l'égalité des sujets entre eux et la population musulmane, qui se considère comme la population dominante, évidemment a énormément du mal à accepter cette idée d'égalité. Je crois que l'origine du problème, c'est l'introduction d'idées d'égalité dans l'Empire. Et à partir de là, les revendications arméniennes ou les revendications des minorités autres que arméniennes, les minorités chrétiennes, irritent de plus en plus les populations musulmanes, d'abord. Et puis deuxièmement, les puissances européennes, y compris la Russie, apparaissent comme des protecteurs des minorités non musulmans, et ce qui de plus en plus va irriter la majorité musulmane, et l'émergence des nationalismes vont amener vers une catastrophe.
Vers l'année 1908, Vincent Duclerc, 1908, c'est le départ du sultan, des vizirs, de tout ce qui faisait le socle de l'Empire ottoman, c'est l'arrivée des jeunes Turcs. Qui sont ces jeunes Turcs, Vincent Duclerc ?
Alors, ce sont des hauts fonctionnaires, des officiers qui ont décidé de mettre à bas la tyrannie du sultan Abdul Hamid II, qui est responsable des grands massacres dont parlait Ahmet Tinsel, hein, et qui conduit l'Empire ottoman à la catastrophe. Donc là, il y a vraiment une volonté à la fois de redonner à l'Empire ottoman donc un grand rôle dans le concert européen, et puis de doter l'Empire ottoman une constitution libérale. Donc, les jeunes Turcs sont très imprégnés des idées de la Révolution française, de la République française. C'est vrai aussi que les jeunes Turcs sont hantés par l'idée de la régénération. Ils sont dominés, pour certains, par le darwinisme social, l'idée que, finalement, il y aura une seule race qui finira par constituer l'État-nation. Donc, c'est un peu ambigu. Les jeunes Turcs, c'est un mouvement composite aussi, hein. Il y a des jeunes Turcs libéraux, des jeunes Turcs nationalistes. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que les jeunes Turcs libéraux vont être balayés au profit des nationalistes. C'est ceux qui, effectivement, triompheront en 1913 et qui vont installer une dictature.
Alors, Gates Minassian, lorsque les jeunes Turcs arrivent au pouvoir, les Arméniens sont plutôt une vision positive, sont plutôt favorables. Parce que déjà, c'est la fin d'une époque, c'est la fin du sultan.
Alors, c'est pas vraiment la fin du sultan, justement. Les jeunes Turcs arrivent au pouvoir, le sultan n'est pas déposé. C'est toujours Abdul Hamid II, il le sera un an après, pendant ce dont a parlé Ahmet il y a quelque temps sur la contre-révolution. Effectivement, les Arméniens, lorsque les jeunes Turcs arrivent au pouvoir en 1908, les Arméniens applaudissent et participent même. Et ils ont le sentiment d'être responsables aussi de la chute d'Abdul Hamid II. Notamment parce que, justement, il est présenté comme le sultan rouge, le haut responsable des massacres de 94-96. Et les Arméniens pensent qu'en rétablissant la constitution en 1908, une nouvelle ère va s'ouvrir, une ère d'égalité, tenant compte des promesses formulées par les jeunes Turcs de respecter leur engagement pris en 1907 lors d'un congrès qui a eu lieu à Paris en décembre 1907, où jeunes Turcs et Arméniens et d'autres minorités également de l'Empire se mettent d'accord pour, un, renverser le régime, deux, rétablir la Constitution, trois, convoquer un Parlement, et donc ouvrir une nouvelle ère. Parce que l'idée, c'était d'empêcher le démembrement. En gros, qui était en cours, donc il fallait absolument arrêter ce débranlement de l'Empire. Et si vous voulez, la grande confusion, c'est que d'un côté, pour les jeunes Turcs, il était question, la priorité des priorités, c'était de sauver l'Empire. Et pour les Arméniens, la priorité des priorités, c'était de faire respecter et de tout miser sur la constitution ottomane. C'était ça la grande différence.
Alors, entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que la Turquie entre en guerre, la Première Guerre mondiale, et la Turquie se retrouve dans la Triple Alliance du côté des Allemands.
Alors, la Turquie entre dans la guerre 4 mois après.
En novembre 1914.
En 1914, 4 mois après le déclenchement de la guerre, mais déjà il y a une préparation guerrière et c'est un peu un coup de force du triumvirat jeune turc, du comité central du jeune turc qui fait entrer la Turquie en guerre du côté de l'Allemagne, parce que la partie française, anglaise aussi demande que la Turquie entre en guerre du côté des alliés, mais la Turquie entre du côté des Allemands pour des raisons à la fois historiques et en même temps avec envie de récupérer les territoires perdus des Balkans après les guerres balkaniques de 1912-1914. L'entrée en guerre de la Turquie va accélérer évidemment des prises de position de plus en plus nationalistes et une sorte d'obsession d'ennemi intérieur va émerger. Mais avant les Arméniens, les Grecs orthodoxes apparaissent comme des ennemis intérieurs, c'est-à-dire des éléments étrangers capables d'accélérer le dépècement, c'est le terme utilisé à l'époque, le dépècement de l'Empire par leurs revendications d'indépendance ou de rattachement à la Grèce, etc. Et l'idée de faire une opération de nettoyage, d'épuration ethnique commence à se mûrir, si vous voulez, dans les premiers mois de l'entrée à la guerre et s'accélérera avec l'immense défaite de l'armée ottomane à Sarıkamış face à l'armée russe.
Avec évidemment une date importante, le 24 avril 1915, qui marque le début du génocide. Vincent Duclerc, qu'est-ce qui se passe le 24 avril 1915 ?
Alors, c'est le début du génocide, même si il faut bien savoir que le génocide a commencé dès le début de l'année 1915, après donc la défaite de Sarıkamış dont parlait Mehmet İnsel. Au fond, ce qu'on observe, c'est que les jeunes turcs unionistes, hein, donc c'est cette branche très nationaliste des jeunes turcs, ce triumvirat, donc souhaite obtenir des victoires sur le front intérieur pour compenser ces défaites extérieures en face de la Russie, puisque la défaite de Sarıkamış, c'est effectivement une défaite considérable en face de la Russie. Et pour reprendre l'avantage, eh bien, il y aura une victoire sur le front intérieur contre donc ces ennemis intérieurs que sont les Arméniens. Et effectivement, là,
les Arméniens qui sont perçus un peu comme les alliés plus ou moins des Russes.
Oui, comme des traîtres. Or, effectivement, il est prouvé historiquement que les Arméniens donc ont décidé d'être fidèles à leur nation, les Arméniens russes fidèles à l'Empire russe, les Arméniens ottomans fidèles à l'Empire ottoman. Il y a du reste énormément d'officiers de grande valeur dans l'armée ottomane. Ces officiers, dès la fin justement de la défaite de Sarıkamış, sont isolés, sont mis dans des bataillons de travail, sont massacrés ensuite. Il y a une série aussi d'arrestations de notables, et puis arrive le 24 avril à Constantinople. Donc c'est l'arrestation de plus de 600 intellectuels, dirigeants politiques, notables, économiques. Donc ils sont ensuite séparés, qui sont envoyés dans des camps donc près d'Angora, donc la qui deviendra Ankara, et là sont mis à mort de manière effectivement extrêmement violente. Hein. Je crois qu'on là on entre aussi dans ce qu'est un génocide, c'est-à-dire une mise à mort donc avec un stade d'inhumanité inouï. Et je crois que ça qualifie aussi les pratiques génocidaires. Et donc, c'est vrai que même si le génocide des Arméniens a commencé dès le début de l'année 1915, cet événement donc à Constantinople marque les esprits et deviendra la date considérée comme le début du génocide des Arméniens. Il faut savoir que un mois plus tard, les pays de la Triple Entente, hein, la Grande-Bretagne, la Russie et la France, adressent donc à la porte au gouvernement unioniste un message extrêmement clair, disant vous êtes en train de commettre des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. Et vous serez traduit en justice pour cela.
Et alors, le 24 avril 1915, c'est le début des arrestations, plusieurs centaines, et très rapidement après, Vincent Duclerc, c'est la déportation de dizaines de milliers d'Arméniens.
Alors, c'est l'ordre de déportation donc qui est signé par le gouvernement unioniste, qui C'est un ordre, en fait, c'est une loi qui est un peu rétroactive, puisque déjà, ces déportations ont eu lieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les ces vilayets, ces provinces orientales du plateau arménien, dont parlait Gaït Minassian tout à l'heure, c'est donc une opération planifiée, méthodique, soit de massacres in situ dans les villes, comme par exemple donc la tentative d'extermination des habitants de Vannes, soit c'est effectivement, pour bien d'autres cas, donc là, l'ordre de déportation. Donc, et qui vise essentiellement des familles sans soutien, notamment des pères, puisque les pères ont été massacrés en tant que soldats ou arrêtés préventivement par la police. Donc, c'est des populations extrêmement vulnérables qui sont donc lancées sur les routes. Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette déportation a pour but l'extermination. C'est pas une déportation simple. Hein, c'est que sur les routes, il y a effectivement des assassinats massifs avec un degré de sophistication, de cruauté inouïe. Alors c'est vrai que, par exemple, pour les Arméniens, donc des provinces occidentales autour de Constantinople, par exemple Izmit, Boursa, ils vont effectivement être déportés donc par le chemin de fer, parce qu'il y a un chemin de fer construit par les Allemands, hein, le fameux Berlin-Bagdad. Et là, le taux de mortalité sera moins fort, et donc au final, on aura donc cette deuxième phase avec l'extermination dans les camps qui sont donc installés dans le désert syrien et mésopotamien.
De ce qui est aujourd'hui la Syrie.
Absolument, la Syrie, tout à fait, la Syrie et une partie de l'Irak.
Alors, à la fin de l'année 1917, combien de morts, Gaït Minassian, est-ce que, enfin, quelle est l'estimation que...
D'abord, ça continue. Au-delà de 17, ça continue jusqu'à 18. Et on peut estimer, alors, ça dépend des chiffres, mais les plus crédibles, c'est entre 1,3 million et 1,5 million. Talat Pacha, dans son journal, donc le Talat Pacha, qui est le grand organisateur de ce génocide, lui avait estimé pour l'année 15-16 déjà 977 000 morts dans son journal de bord. Et donc, il n'avait pas compté.
Il y avait une comptabilité.
Voilà, comptabilité, mais vraiment province par province, ville par ville, village par village. Et il s'est arrêté en 16, il faut compter 17 et 18. Et donc ça, c'est déjà une première estimation crédible, puisque c'est carrément le bourreau en chef qui donne ces chiffres. Le génocide s'arrête vraiment, j'ai envie de dire, avec la chute de ce régime putschiste, dont Ahmed parlait, donc le coup d'État en janvier 13. Et c'est aussi l'extradition, c'est ça qui va, l'exfiltration, c'est plutôt l'exfiltration de ces hauts responsables,
notamment en Allemagne.
En Allemagne, donc avec un coup de main des Allemands. N'oublions pas que ça se passe en septembre-octobre, donc la guerre n'est pas encore finie, et l'Allemagne donne un dernier coup de main à son allié jeune turc, et Talat Pacha et d'autres vont se retrouver en Allemagne ou un peu partout en...
Vincent Duc, d'un mot, voilà. Car nous arrivons au terme de cette première partie.
Préciser aussi que non seulement ils sont exfiltrés, mais ils détruisent les archives de la solution finale ottomane. Hein, ça, c'est très important. Ça montre bien aussi leur conscience du crime contre l'humanité. Et peut-être préciser aussi que malheureusement, à partir de 1919, les massacres d'Arméniens reprennent en Anatolie. Alors là, réalisés par les Kémalistes, hein, et jusqu'en 1923, jusqu'au traité de Lausanne, on assiste à des massacres systématiques d'Arméniens en Cilicie, à Smyrne, des expulsions, ce qui fait que effectivement la civilisation arménienne d'Anatolie est éradiquée en 1923.
Alors en 1923, c'est l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal, Atatürk. Que deviennent les massacres à partir de moment où Atatürk est au pouvoir? Il s'arrête à partir de 1923?
Ah oui, il s'arrête parce qu'il n'y a plus d'Arméniens. Les Arméniens ont été massacrés en Anatolie, ont été expulsés dans le cadre notamment du traité de Lausanne ou même des expulsions sauvages. Il reste quelques dizaines de milliers d'Arméniens à Constantinople, mais il faut savoir effectivement que les chiffres, en 1914, on estimait, comme l'a dit Gaït Minassian, à peu près à 2 millions le nombre d'Arméniens. Il n'en reste que quelques dizaines de milliers. Donc ça veut dire que là, et au fond, ce qu'il faut peut-être préciser encore, c'est que le régime kémaliste va s'acharner contre des Arméniens convertis à l'islam, notamment dans le Dersim, hein, à Tunçeli, et là, donc, la persécution va continuer. Donc, la Turquie actuelle n'a pas encore effectivement résolu ce problème de la persécution à l'égard des Arméniens.
On va revenir sur la Turquie aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos. On se retrouve dans 3 minutes très exactement pour notre débat. 100 ans après le génocide arménien reste un problème turc. A tout de suite.
Spotcast.
Zadania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. 100 ans après le début du génocide arménien qui fit entre 1915 et 1917 plus d'un million de morts dans l'Empire ottoman, la Turquie refuse toujours de parler de génocide. Le gouvernement d'Ankara évoque des massacres mutuels et dit partager les souffrances des enfants et petits-enfants des Arméniens, mais le président Recep Tayyip Erdogan s'insurge quand le pape François emploie pour la première fois le mot génocide et quand le Parlement européen encourage la Turquie à reconnaître le génocide arménien. 100 ans après le début des massacres, le génocide arménien reste donc un problème turc. Je vous représente rapidement nos invités, Gaïds Minassian, journaliste au Monde, auteur du Rêve brisé des Arméniens chez Flammarion, et Arménien, le temps de la délivrance aux éditions du CNRS. Vincent Duclerc, historien et co-auteur avec Hamid Bozarslan et Raymond Kevorkian de Comprendre le génocide des Arméniens 1915, le premier génocide, c'est aux éditions Talandier. Et Ahmet İnsen, en ligne d'Istanbul, professeur, politologue, jeune journaliste depuis quelques temps, son dernier livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, aux éditions La Découverte, et avec Michel Marion, il a publié il y a quelques années, Dialogue sur le tabou arménien, c'est chez Liana Levy. Alors avant de reprendre notre débat, on va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Jerry Philly, bonjour.
Bonjour.
Et évidemment, Courrier International a consacré un dossier à cette commémoration, et c'est un article du journal Foreign Policy de Washington qui a retenu votre attention. Il met en évidence le fait que la reconnaissance du génocide a pris beaucoup de temps.
Tout à fait, Daniel. L'article rappelle que la reconnaissance internationale de ces événements en Arménie a pris énormément de temps. Au cours des 70 années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, seuls 3 parlements ont reconnu le génocide, alors qu'ils ont été près de 20 avec le Vatican et le Parlement européen à le faire depuis les années 2000. Et l'article souligne, bien sûr, c'est un journal américain, que c'est seulement en mars 2015 que la Chambre des représentants américaine a adopté une résolution appelant à une pleine reconnaissance des faits et des conséquences du génocide arménien par la Turquie.
Et ce que met en évidence, Jerry, le journal Foreign Policy, c'est qu'il y a peut-être en ce moment un génocide qui se déroule, alors on n'en parle pas encore, ça se déroulerait en Irak, forcément sous nos yeux, un génocide commis par l'organisation de l'État islamique, notamment contre les minorités chrétiennes.
Absolument, Daniel, l'article cite un rapport publié le 19 mars par le Haut Commissariat des Nations Unies qui dit que, je cite, il y a tout lieu de conclure que les actes de Daesh pourraient constituer un génocide. Alors, tout ça a été largement, les récentes exactions de l'État islamique ont été largement télévisées, avec notamment la fuite des yézidis vers les montagnes et aussi la destruction d'églises assyriennes. Nous savons très bien que se passe quelque chose au Moyen-Orient en ce moment, mais est-ce que ça va donner lieu à une prise de conscience? Qui sait?
Alors peut-être que ce qui se passe aujourd'hui en Irak, en Syrie, et les massacres des chrétiens d'Orient ou la déportation des yézidis sera considéré un peu plus tard comme un génocide. Gaïds Minassian, ce qui est sûr, c'est que même les Arméniens n'ont pas toujours parlé de génocide.
Il n'y avait pas de mot. Le mot n'existait pas. Il existe... Alors, juridiquement, il existe à partir de 48. Il existe dans la tête de Raphaël Lemkin dès
43.
Il a essayé de lui donner un cachet juridique lors du procès de Nuremberg. Ça n'a pas marché. Et ça, c'est important de le rappeler. Malheureusement, les hauts responsables nazis donc de la Shoah n'ont pas été condamnés pour génocide. Ils ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, mais pas pour génocide. Donc la décision d'institutionnaliser le mot génocide vient en 48 avec la convention. Les Arméniens parlaient de grandes catastrophes ou de grands carnages. Donc Menzieren en arménien, ça veut dire grand carnage. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de mot. Raphaël Lemkin, qui est l'inventeur du mot, du concept génocide, a travaillé sur 3 cas lorsqu'il a étudié cette incrimination. Il a parlé donc du cas arménien, du cas ukrainien et du cas juif pendant la Shoah. Voilà.
Alors, Vincent Duclerc, quels sont les pays aujourd'hui qui reconnaissent le génocide arménien? C'était un long combat pour les Arméniens et on peut dire que chaque année où il y a un pays en plus qui considère que ce qui s'est passé en Turquie dans les années 15-17, c'est un génocide.
Les premiers pays à reconnaître le génocide des Arméniens, c'est notamment en Amérique latine, hein. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une relative communauté arménienne. Ce qui est important de souligner, c'est d'abord l'action des grandes organisations internationales, hein. Bon, on l'a dit, effectivement, l'ONU est empêchée de reconnaître le génocide des Arméniens par l'activisme de la Turquie. Le Parlement européen a reconnu le génocide des Arméniens, donc ça c'est un point très important. Et puis la France a été leader, hein, donc dans parmi les grandes puissances, et notamment les grandes puissances belligérantes, hein, parce qu'il faut rappeler aussi que le génocide des Arméniens s'inscrit dans la Première Guerre mondiale, et c'était en 2001. Bon, c'est un processus qui a été initié très tôt, hein, on peut dire avant même l'instauration de la Ve République. Et puis c'est certain que l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, le rôle de Lionel Jospin, ça a fait que en 2001, donc, il y a cette reconnaissance, une loi déclarative, hein, qui ne mentionne pas du reste le responsable du génocide, mais qui a un grand impact, hein, de ce point de vue-là. Donc, il est important, effectivement, d'avoir ces reconnaissances, mais c'est vrai aussi qu'il est important de souligner qu'il y a peut-être une reconnaissance universelle à travers, donc, l'affirmation de la connaissance sur le génocide. Et là, je veux dire, les chercheurs sont unanimes aujourd'hui à considérer qu'il y a bien un génocide. Ils n'ont pas nécessairement utilisé la catégorie judiciaire de la Convention de 1948. Mais eux, d'un point de vue historique, attestent d'une volonté destructive, d'une organisation chargée de la destruction d'un peuple, des êtres humains, mais aussi leur trace civilisationnelle en Asie mineure.
Est-ce qu'aujourd'hui, le génocide construit l'identité des Arméniens?
Il y a eu un phénomène amplificateur qui s'appelle le génocide pour expliquer cette géographie mondiale des Arméniens, où donc il y a plus d'Arméniens à l'étranger qu'en Arménie.
Dans l'ex-Arménie soviétique,
qui aujourd'hui est Erevan, et qui aujourd'hui est la République d'Arménie indépendante depuis 91, depuis la chute de l'URSS. Et donc, il y a la religion, il y a la langue comme phénomène structurant, il y a l'idée d'un territoire aussi comme phénomène structurant, même s'il est plus dans la tête que dans la réalité.
Mais
il y a le génocide comme une tache noire, comme quelque chose qui il faut se rendre compte. C'est-à-dire, si on prend un petit exemple, je souhaite que ça n'arrive jamais, mais imaginez la France qui subirait un génocide si elle avait 60 millions d'habitants et que d'un coup, les deux tiers, 40 millions de Français, qui d'un coup disparaissent et que les 20 millions qui restent sont disséminés à travers le monde. À votre avis, ça marquerait pas un peuple, ça? Et pas pour une génération, pour des générations. Surtout si ce génocide est nié, dont on orchestre même la négation.
Alors, à l'inverse, Ahmet İnsel, est-ce que la Turquie moderne, à partir d'Atatürk en 1923, s'est construite sur cette négation du génocide? Est-ce que dans la Turquie moderne, c'est un facteur important, voire essentiel?
Oui, globalement, l'éradication des minorités non musulmans est constitutive de l'identité de la République moderne. Et l'œuvre d'épuration a continué par la suite. Ce n'est pas une parenthèse qui s'est fermée en 1923, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, bien sûr en diminuant, parce qu'il n'y a quasiment plus de non-musulmans, il y a eu une politique d'État épuration ethnique, pousser les juifs, les arméniens, les grecs orthodoxes à quitter la Turquie d'une certaine manière, leur donner le statut officieusement, leur statut de citoyen de seconde zone et saisir leurs biens par le trésor public. Et simplement, depuis quelques années, il y a un mouvement de restitution. Effectivement, on peut dire que la négation de ces épurations, et y compris le génocide des Arméniens, fait partie malheureusement de l'identité nationale, et nous espérons que ça puisse un jour en finir.
Alors, avec Michel Marian, vous avez écrit un livre qui est sorti, je crois, il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, vous allez me le dire, Dialogue sur le tabou arménien, donc chez Eliana Lévy, un livre qui est d'ailleurs réédité en ce moment. Est-ce que le mot génocide reste tabou en Turquie ou pas? Est-ce que ça évolue et comment?
Ça évolue. Il reste un tabou au niveau de la politique officielle et au niveau de l'imaginaire de la sémantique de la majorité de la population. Mais par rapport à il y a 10-15 ans, au niveau de la société civile, nous avons acquis un espace de liberté, par les luttes d'ailleurs, et par le soutien de nos amis internationaux, on a acquis un espace de liberté. Aujourd'hui, nous pouvons tenir des conférences dont le titre est le génocide arménien.
Ça veut dire
donc,
que ce sont les...
Il y a, au niveau de la société civile, une certaine acceptation qu'on puisse en parler. Ça ne veut pas dire que les gens acceptent et reconnaissent le génocide, mais qu'on puisse exprimer, expliquer ce qui s'est passé, exprimer les raisons d'une reconnaissance du génocide des Arméniens. Et enfin, nous avons un débat, parfois passionnel, parfois violent du point de vue du pouvoir et des nationalistes, mais je pense que c'est la seule solution qui puisse faire évoluer et casser définitivement le tabou. C'est la société turque, la société de la Turquie, qui va imposer, j'espère, un jour au pouvoir, à la raison d'État, la reconnaissance du génocide arménien et aussi la reconnaissance des crimes commis par cette raison d'État envers toutes sortes de minorités depuis un siècle.
Alors, Ahmedine Sincan, vous dites qu'il y a un débat, il est circonscrit aux intellectuels d'Istanbul, ou est-ce que ça irrigue un peu plus profondément la population turque ?
Ça commence à toucher plus profondément la population turque parce qu'il y a aussi un deuxième débat. Tous les Arméniens qui apparaissent comme morts dans les registres ne sont pas tous morts. Certains sont disparus, ils ont pu fuir, et certains se sont convertis. Et donc ils disparaissent en tant qu'Arméniens. Et aujourd'hui, depuis l'apparition du livre de Fethiye Çetin, Ma grand-mère, qui a été traduit en français, il y a un deuxième phénomène en Turquie, c'est la découverte des grands-mères, particulièrement des grands-mères. Les grands-pères ont été tous massacrés, et c'est plutôt les filles qui ont été accaparées par les familles musulmanes. Et on découvre de plus en plus des descendants arméniens qui sont musulmans, mais qui redécouvrent ou qui osent maintenant exprimer leur arménité. Et donc du coup, ce n'est plus un travail d'intellectuel, c'est un travail qui est disséminé aux quatre coins de la Turquie, à Erzurum, à Iskenderun, à Van, à Bitlis, etc. Et puis on commence aussi à parler des Arméniens cachés.
RFI à Erevan. 102.4 FM.
Autre illustration de la société civile qui fait bouger les lignes avec le cinéaste turc Fatih Akin. Il a réalisé il y a quelques mois un film qui s'appelle The Cut, La blessure. Évidemment, la blessure, c'est le génocide. Maria Afonso.
Un film qui a fait parler de lui avant même d'être projeté en salle. À la fois en raison de son sujet, puisqu'il s'agit du génocide arménien, mais aussi parce que les ultranationalistes turcs se sont montrés menaçants à l'égard du cinéaste. The Cut, tourné en Turquie, raconte l'histoire de Nazaret Manogyan, un artisan arménien de la petite ville de Mardin. Une nuit, les soldats ottomans débarquent dans sa maison. Nazaret est alors séparé de sa femme et de ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, il apprend que ses filles sont toujours en vie. Il se lance alors à leur recherche. C'est donc un film d'aventure, mais avec en toile de fond la Première Guerre mondiale et le génocide arménien. Extrait de la bande originale du film.
On dit que tous les hommes arméniens de Zeytoun ont disparu.
Annie n'effraie pas les enfants.
Mais c'est la vérité.
Pour Fatih Akin, le cinéaste, c'est vraiment la question du rapport à l'histoire qui pose problème. Comment un homme est entraîné malgré lui dans un génocide qui va changer en profondeur les rapports humains. Lors de sa sortie en Turquie, les réactions des Turcs ont été mitigées, selon Fatih Akin.
Il y a eu toutes sortes de réactions. Certains ont aimé la prise de position politique du film, mais ils n'ont pas aimé l'objet artistique. D'autres, au contraire, ont aimé le film, mais ils étaient contre son positionnement politique. Certains ont aimé les deux, des gens ont détesté les deux. Il y a eu toutes sortes de réactions, comme à peu près partout. Cela dit, moi j'ai eu à payer un prix en faisant ce film en Turquie. J'y étais préparé, je l'accepte. Avant de faire ce film, j'étais très populaire en Turquie. On m'aimait beaucoup, et maintenant presque plus personne ne m'aime. Je suis très mal vu pour avoir fait ce film. Il y a très peu de Turcs qui se reconnaissent dans le positionnement de ce film. Du coup, je suis mis à l'écart. Je suppose que c'était le prix à payer.
Ahmet Insel, est-ce que vous avez vous aussi été confronté à pareille réaction?
Oui, nous avons eu une réaction similaire quand nous avons lancé en 2008 la campagne de pétition pour demander pardon aux Arméniens. Il y a eu une réaction relativement importante contre l'organisateur de cette pétition. Nous avons l'habitude de se confronter. Notre seul combat n'est pas le problème arménien en Turquie. C'est un front très large. Le déficit démocratique en Turquie, si ça s'arrêtait simplement au problème arménien, ce serait déjà une très grande avancée. Et il y a plusieurs fronts en même temps, le problème kurde, le problème alévi, le statut des femmes, les libertés d'expression, etc. Et effectivement, plusieurs personnes comme Fatih Akın apparaissent un peu comme des usual suspects, les suspects ordinaires pour les nationalistes. Ils constituent, moi aussi je pense, je fais partie de ce groupe, de ceux qu'on considère des ennemis intérieurs.
Alors, à Médicine, quand le gouvernement turc, par la voix de son président, dit partager les souffrances des enfants et petits-enfants, sous-entendu des Arméniens, qu'est-ce que cela signifie? C'est une inflexion tactique ou c'est un réel changement d'attitude?
Alors, du côté de parti au pouvoir, du parti de justice et de développement, il faut reconnaître qu'il y a eu une légère inflexion sur cette question. Et c'est la thèse du Premier ministre Ahmet Davutoğlu qui commence à primer du côté du gouvernement, du côté des bureaucraties et notamment du ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'il reste définitivement pétrifié par la négation absolue du génocide. Mais du côté de Davutoğlu, il y a une légère avancée. Ces changements, disons, ils veulent mettre désormais en balance les différentes souffrances de la Première Guerre mondiale, les circassiens qui ont été chassés des Caucase à la fin du 19e siècle, les musulmans chassés des Balkans lors des guerres de Balkans, les épurations ethniques des musulmans en Bulgarie, etc., etc. Et ils veulent, d'une certaine manière, contrebalancer ce qu'il appelle, lui, la mémoire juste, contrebalancer les souffrances et les mettre ensemble. Pourquoi pas, effectivement, de parler de toutes les souffrances, mais les Turcs existent, ils ont leur pays, ils n'ont pas été disparus de la carte de leur pays, de leur mère patrie. La différence fondamentale, c'est que les Arméniens ont perdu leur mère patrie. L'Anatolie est aussi la mère patrie des Arméniens. Et ça, les Turcs en Turquie, les nationalistes turcs en Turquie, ont du mal à accepter.
Vincent Duclair, il y a, vous ressentez, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ahmet İnsel, une inflexion de la position turque à propos du génocide ou pas?
C'est une inflexion très étrange parce qu'effectivement elle vise bien sûr à donc adresser des condoléances par exemple, mais aussi à empêcher que la question du génocide soit posée entre je veux dire des par exemple des massacres qui sont observés hein, donc notamment de légionnaires arméniens qui intervenant sur le front russe depuis la Russie détruisent des villages musulmans. Oui, c'est avéré, mais je veux dire ce n'est pas dans un processus de destruction d'un peuple et d'une civilisation. Donc là, je crois que c'est une manœuvre, malheureusement, de la diplomatie et du gouvernement turc. Je crois qu'effectivement, le gouvernement turc doit reconnaître qu'il y a eu génocide et que ce génocide n'est pas équivalent donc aux massacres de masse qui ont pu avoir lieu dans cette guerre. Il faut effectivement accepter cette vérité. Alors, s'il y a inflexion, c'est à la fois parce qu'il y a une pression internationale, on le voit bien, la récente reconnaissance du génocide par le pape, il y a aussi, et là il faut y insister, l'action de la société civile, d'aller vers cette reconnaissance de l'histoire, et c'est très large. Et bien sûr, les historiens, depuis leur fameuse conférence de 2005, qui a marqué les esprits, où là le mot génocide a été prononcé, mais c'est aussi, au fond, l'action des artistes, très récemment, paraît en Turquie, donc un livre collectif d'écrivains qui s'appelle L'Arménien qui est en nous, qui en fait amène la société turque à repenser ce vide immense qui a été créé par l'éradication de cette Arménie, de cette composante arménienne de la société turque. Donc c'est un point essentiel qu'il faut souligner. Donc c'est cette mobilisation. Mais cette mobilisation, elle a des risques. Hein. Ahmet İnsel ou Fatih Akın ont évoqué donc cette mise à l'écart. Hein. Il faut aussi évoquer l'assassinat de Randink, hein, qui est un Turc de confession arménienne, qui a beaucoup fait pour dire à la Turquie, regardez effectivement la vérité en face.
Et qui était le rédacteur en chef
d'Agos, hein, un journal colonel donc bilingue, arménien et turc, qui a été assassiné en 2007. Hein, et donc depuis, il y a une fondation Randonnée, qui a beaucoup d'éléments très importants de ce point de vue-là.
Et une commémoration chaque année, en janvier, si je me souviens bien.
Et peut-être le dernier point, je pense qu'il faut vraiment souligner, et qui a été dit par Ahmed Tinsel, mais je crois que pour les auditeurs, c'est très important de comprendre que s'il y a effectivement une action aussi sur le génocide des Arméniens, c'est parce que c'est le tabou, c'est le grand tabou qui va permettre à la société turque de sortir, de cette domination idéologique. Et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas aussi lâcher sur le génocide arménien, parce que c'est tenir la société à travers l'imposition d'une histoire officielle qui a été étudiée, par exemple, par Bouchra Ersanlı, hein. Et donc, si effectivement la Turquie cède sur le génocide, elle perd des moyens de domination de sa société. Mais justement, l'action de ces intellectuels, de ces artistes, de ces militants donc des droits de l'homme, c'est de dire maintenant il faut que la société turque accède, je veux dire, à la démocratie. Donc c'est un grand combat. Il faut soutenir, je pense, très fortement les Turcs qui donc mènent des combats essentiels.
Alors c'est d'ailleurs un peu le thème du dernier livre d'Ahmet Tinsel, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. On sent bien que évidemment la négation du génocide arménien, c'est essentiel dans ce qui forme la Turquie d'aujourd'hui, mais à l'inverse, chez les Arméniens, est-ce que les Arméniens ne sont pas prisonniers du génocide qui les empêche peut-être de regarder un peu plus l'avenir, Gaït Minassian?
Alors, permettez-moi d'abord d'ajouter un point sur ce qui a été dit. Moi, je ne dis pas que... je ne mets pas dans le même sac Erdogan, Davutoğlu, Gül et les kémalistes. C'est pas le même type de négationnisme. Je veux dire, Erdogan, Gül, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont apporté quelque chose d'important en termes de démocratisation de la société, des institutions, etc. Aujourd'hui, c'est exactement ce que dit Ahmet Tinsel dans son ouvrage, où tout est dit dans le sous-titre, de la démocratie à l'autoritarisme. Ça veut dire que le Erdogan de 2002 n'est pas le Erdogan de 2015, et pour les autres aussi, pour les autres dirigeants de l'AKP. Alors que les kémalistes, eux, sont dans un négationnisme total. C'est-à-dire, au moins, l'AKP reconnaît qu'il y a un problème arménien, qu'il y a une question arménienne, qu'il y a eu des massacres, etc. Les kémalistes, purs et durs, ne reconnaissent rien. Je veux dire, l'arménien est soit mort, soit dominé.
Alors les kémalistes, donc, ils sont aujourd'hui le parti CHP. Mais je reviens à ma question.
Je reviens. Non, mais c'est important de préciser ces deux points-là, à mon avis. Donc, pour en venir maintenant à votre question sur les Arméniens doivent-ils aussi s'affranchir? En fait, de chaque côté, vous avez un besoin d'affranchissement, d'une forme de domination. Je veux dire, tout ce que dit Ahmet, ça traduit en fait la volonté de s'autonomiser d'une histoire officielle et de vivre pleinement ses droits en tant que citoyen. Et ça, c'est fondamental. Il faudrait qu'il y ait des milliers et des milliers d'Ahmet Tinsel en Turquie, capables de s'autonomiser, de s'affranchir d'un poids de l'histoire, pour dire tout simplement que les responsables, ce ne sont pas les gens de la société civile, c'est l'État. C'est à l'État d'assumer sa responsabilité en tant qu'État héritier. Et pour les Arméniens, c'est pareil. C'est une forme d'affranchissement, d'une forme de domination, de servitude, de sortir par le haut de cette question. Donc si l'État turc ne reconnaît pas le génocide des Arméniens, comme c'est le cas actuellement avec l'AKP au pouvoir, eh bien, que les Arméniens essayent de contourner cet obstacle en jouant la carte intersociale, c'est-à-dire la carte des relations, des passerelles, des coopérations entre les sociétés civiles, comme c'est en train de se mettre en place. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Et moi aussi, personnellement, j'invite les Arméniens du monde entier à aller travailler main dans la main avec les Turcs qui reconnaissent leur histoire, qui affrontent le démon, leur propre démon, pour justement faire avancer cette cause dans l'espace public turc. Par exemple, ils devraient ensemble travailler à débaptiser tous les lieux dans l'espace public, tous les lieux marqués par des leaders des jeunes turcs, c'est-à-dire la place Talat Pacha, le mausolée Talat Pacha, Enver Pacha, toutes ces rues, tous ces boulevards, tous ces jardins, toutes ces places, tous ces parcs, débaptiser ça et à la place, je sais pas moi, baptiser ça par le nom des justes, c'est-à-dire des turcs, des officiels turcs qui ont empêché, qui ont tout fait au prix de leur vie parfois, pour sauver des Arméniens. Ça, ce serait un bon geste déjà de la part de la société. Ça, ce serait une belle action commune arménienne et turque. Voilà, par exemple.
Alors, il y a eu au niveau présidentiel une amorce de dialogue entre le président arménien et le président turc. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ? D'un mot.
Parce que je pense que c'est venu trop vite. Je veux dire, dès que le politique s'en mêle, c'est une autre logique qui intervient. Quand c'est la société civile qui s'en mêle, c'est différent. Il y a un côté de paix, de tolérance, de coopération. Dès lors que ce sont les États qui s'en mêlent, c'est une logique de puissance, d'intérêts nationaux. Et donc là, on est dans une réelle politique. En plus, on a un régime qui est assez autoritaire en Turquie et un régime qui avait besoin d'asseoir sa légitimité autorité en Arménie au moment
de... Qui est aussi autoritaire.
Qui est assez autoritaire. Alors, je ne mettrai pas au même plan que l'Azerbaïdjan.
Mais qui n'est pas non plus démocratique.
Mais qui n'est pas aussi démocratique qu'on le pense, mais qui a joué cette carte du rapprochement avec la Turquie, de la normalisation, parce que le président arménien avait besoin d'asseoir sa légitimité, parce que l'élection en 2008, donc son premier mandat à la tête de l'État, était controversée. Donc, si vous voulez, il y a eu cette dynamique politique, mais je le dis très sincèrement, je veux dire, on aurait voulu torpiller le processus de rapprochement turc-arménien, on ne s'y serait pas mieux pris.
Ahmet Tinsel, je vous laisser le mot de conclusion. Dans les négociations que la Turquie mène avec l'Union européenne, négociations ô combien difficiles, ô combien longues, quelle est la part de la négation du génocide dans cette impasse de ces négociations?
Malheureusement, très peu, parce que je pense que la question de la reconnaissance du génocide arménien, c'est quelque chose qui pouvait arriver devant le gouvernement turc le jour où la Turquie pouvait être en situation de devenir pleinement membre de l'Union européenne. Et là, le gouvernement turc aurait été obligé probablement de faire le pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour différentes raisons, perte d'intérêt de l'Union européenne vis-à-vis de l'adhésion de la Turquie, blocage vis-à-vis de la Turquie, perte d'intérêt en Turquie de l'adhésion à l'Union européenne, une montée de ressentiment vis-à-vis de l'Europe, etc., font qu'aujourd'hui, le levier de démocratisation de l'Union européenne est grippé, et bien entendu, la question de reconnaissance du génocide arménien via ce moyen a perdu de son efficacité.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Pour retrouver les références des livres de nos invités, le podcast de l'émission et plein de choses encore, rendez-vous sur la page de l'émission RFI.fr. Vous pouvez également réécouter ce Carrefour de l'Europe grâce aux applications gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Yerevan, à Istanbul, ailleurs dans le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.